Le tour d'horizon. Ici Éric Lantier. Je vous invite à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon. Le tour d'horizon est une émission quotidienne qui survole les enjeux du 21e siècle. Je commenterai les sujets d'actualité qui concernent les gens de foi et les citoyens de bonne foi. Je vous invite donc à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon pour voir plus clair sur cette terre. Soyez des nôtres, le tour d'horizon débute à l'instant.
Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et merci d'avoir syntonisé le 92,7 FM ou de prendre part à ce tour d'horizon via radiovienouvellefm.com. Veuillez noter que le tour d'horizon vise à donner aux gens de foi et aux citoyens de bonne foi une plateforme pour réfléchir et pour discuter avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, il est question des sites d'injection supervisés. Le sujet du jour est inspiré d'un article de Radio-Canada publié sur la plateforme du Huffington Post et intitulé « À quand des injections supervisées pour les toxicomanes de Québec? » Voici ce que nous apprend Claude Brunet sur le sujet. Après Insight à Vancouver, Montréal est en voie d'offrir des services d'injection supervisée, un lieu où les toxicomanes peuvent s'injecter cocaïne, morphine et héroïne en toute sécurité et en toute impunité. À Québec, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux, CIUSSS, de la Capitale-Nationale, souhaite offrir les mêmes services au centre-ville. L'agence estime que le besoin est réel. Il y a un grand nombre de toxicomanes qui s'injectent des drogues dans des conditions qui menacent leur santé et leur sécurité. Avant d'implanter un tel service, le CIUSSS doit faire une demande d'exemption à Santé Canada, suivant ainsi les balises fixées par la Cour suprême dans le jugement favorable à l'organisme Insight de Vancouver. Le CIUSSS du centre Est de l'île de Montréal a déposé sa demande à Santé Canada le printemps dernier pour obtenir une exemption de Santé Canada afin d'implanter des services d'injection supervisés. L'agence doit démontrer le besoin, détailler le projet et recueillir un large consensus au sein de la communauté. Le maire Régis Labeaume est d'accord, à condition que le service soit associé à un établissement de santé. Les commerçants du quartier Saint-Roch, où on pense offrir le service, restent frileux. Ils souhaitent que les services soient mobiles pour éviter de stigmatiser un secteur en particulier. Quant aux résidents, ils sont divisés. Les nouveaux arrivants dans Saint-Roch n'aiment généralement pas l'idée. Maintenant, comment doit-on aborder la question? Parce que ce n'est pas simple comme contexte, mesdames et messieurs. D'une part, on veut éviter des problèmes de santé reliés à la toxicomanie et à la transmission d'infections et de problèmes de santé. D'autre part, on fait face à des problèmes reliés au crime organisé et de part et d'autre, ce sont les contribuables qui payent pour les conséquences de ces mauvais choix. Mais dignité humaine oblige. Pour mieux cerner la problématique, faisons un topo de la situation. Tout d'abord, selon l'Institut national de santé publique du Québec, dans une analyse critique de la littérature intitulée « Avis sur la pertinence des services d'injection supervisés », nous apprenons que les recherches ont démontré, même avec les limites identifiées dans cet avis, que cette mesure ne présente aucun risque pour la santé, n'a pas d'effet néfaste sur les personnes et sur l'environnement et qu'elle permet à court terme de sauver des vies et à long terme de réinsérer les personnes qui utilisent des drogues intraveineuses dans un mode de vie plus sain. C'est donc, mesdames et messieurs, dans cet esprit que des intervenants et des organismes concernés par cette problématique ont l'intention de mettre sur pied des centres d'injection supervisés. À ce stade-ci, faisons donc le point sur la réalité reliée à la consommation de drogues consommées par les voies intraveineuses. Selon des membres du Centre canadien de lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies, les utilisateurs de drogues injectables, qu'on appelle UDI, la considèrent, l'injection, comme une méthode plus efficace, moins coûteuse et qui produit moins de pertes. Donc, peuvent être injectées dans l'organisme presque toutes les drogues psychoactives licites, qui sont légales, ou illicites, donc illégales, susceptibles d'être liquéfiées. Ces substances proviennent de diverses sources, comme le marché noir ou une prescription détournée. Au Canada, les UDI utilisent fréquemment les drogues suivantes, notamment la cocaïne, l'héroïne ou une combinaison de cocaïne et d'héroïne qu'on appelle « speedballs », des amphétamines, le TNR, ou le Talwin Eritalin, l'opioïde pharmaceutique, par exemple le Dilaudide, la morphine, etc., et les stéroïdes anabolisants. Il y a entre 75 000 et 125 000 utilisateurs de drogues injectables au Canada. Environ le tiers des UDI sont des femmes. On compte près de 15 000 UDI à Vancouver. À Montréal, mesdames et messieurs, le nombre de personnes qui se piquent à la cocaïne varie entre 6 000 et 25 000 et pour l'héroïne, de 5 000 à 15 000. Certaines personnes pouvant consommer les deux drogues. Les estimations indiquent qu'environ 20 % des UDI au Canada s'injectent des drogues pour améliorer leur performance, comme les stéroïdes anabolisants. Là où c'est problématique, c'est en Norvège, où environ 50 % des utilisateurs qui ont des problèmes de drogue se piquent. Autrement dit, cela représente entre 500 000 et 750 000 utilisateurs. Quels sont les problèmes reliés à l'utilisation des drogues injectables? L'utilisateur de drogues injectables s'expose grandement à contracter le VIH, l'hépatite C et d'autres infections virales graves transmissibles par le sang s'il partage des seringues contaminées, non stériles, ou indirectement un matériel contaminé ayant servi à des injections comme les cuillères, les contenants, les filtres, etc. Le risque de contracter le VIH est accru chez les femmes et le risque est encore plus élevé chez les femmes autochtones et chez celles qui sont incarcérées. Les recherches indiquent que l'utilisation des drogues injectables figure pour au moins 60 % des incidents de transmission de l'hépatite C au Canada. Au nombre des complications sérieuses pour la santé, notons abcès, infections, dommages vasculaires, mauvaise nutrition, androcarditis, réactions défavorables aux médicaments, transmission périnatale de maladies infectieuses à des enfants à naître, surdose mortelle et non mortelle, privation de sommeil, absence de menstruation, dépression et autres problèmes de santé mentale, suicide et décès. Les femmes qui utilisent des drogues intraveineuses courent un risque accru de connaître des complications de leur santé physique. Les coûts de la morbidité, de la mortalité et des soins de santé associés à une maladie chronique et à des soins palliatifs sont notables. Souvent, les utilisateurs de drogues intraveineuses éprouvent des difficultés interpersonnelles et un isolement social cause de problèmes dans leurs relations avec les amis et la famille. Présentent un niveau de scolarité moins élevé, d'où des problèmes d'emploi et un faible revenu. Sont l'objet d'une stigmatisation et de stéréotypes du fait qu'ils sont des accros, ce qui accroît encore plus leur isolement social et leur marginalisation. Recourent fortement aux organismes de services sociaux et de santé, ont des conditions de vie instables et sont souvent sans abri. On constate une forte corrélation entre l'utilisation de drogues injectables et divers types de comportements criminels et de sous-cultures criminelles. Contrebande, cambriolage, vol avec effraction, etc. En Angleterre, 19 % des personnes arrêtées ont indiqué avoir utilisé des drogues injectables dans leur vie et 14 % dans les 12 mois précédents. Maintenant, à quand remontent les CIS? À l'origine, les CIS ont été mis sur pied par des fournisseurs locaux de soins de santé dans les Pays-Bas dans les années 70, en Suisse dans les années 80 et en Allemagne dans les années 90 pour réduire la nuisance publique liée à l'utilisation de drogues injectables et pour fournir aux UDI un environnement propre et protégé dans le but de réduire la diffusion de virus transmissibles par le sang, le risque de surdose et le désordre public. Actuellement, il y a entre 40 et 50 CIS officiels dans le monde, notamment en Australie, au Canada, au Luxembourg, en Espagne, en Autriche, en Allemagne, dans les Pays-Bas et en Suisse. Je continue. L'Organe international de contrôle des stupéfiants, OICS, a critiqué le désir du Canada et d'autres pays de mettre sur pied des CIS. Dans son rapport annuel de 2003, l'OICS affirme que de tels centres vont à l'encontre des dispositions fondamentales des traités internationaux pour le contrôle des stupéfiants. Il n'y a pas que l'OCIS qui n'est pas favorable à l'implantation de CIS. Le chef de police de Québec avait mentionné à son arrivée en poste, il y a un peu plus de 4 ans, qu'il n'était pas favorable à ce que l'État investisse des ressources pour mettre sur pied les CIS. Voici ce que le journal Le Soleil nous apprend à cet effet. En entrevue éditoriale avec Le Soleil, le nouveau chef de la police de Québec a indiqué qu'il croit qu'un tel service aura des effets négatifs sur le quartier où il pourrait être installé, notamment en ce qui a trait au sentiment de sécurité des citoyens. Au lieu d'investir dans cette installation, les autorités compétentes devraient mettre l'accent sur la lutte contre la consommation de drogue dans les écoles secondaires, croit-il. Celui-ci rappelle que partout dans le monde où l'on retrouve ces services, c'est en raison de l'omniprésence des consommateurs d'héroïne. D'ailleurs, je parlais avec mes gars du département des stupéfiants et personne ne se rappelle de quand a eu lieu la dernière saisie d'héroïne à Québec, dit-il. La finalité derrière ça, c'est quoi? S'est-il questionné. Ce sont quoi les véritables objectifs? Offrir le service ou obtenir la subvention du gouvernement pour donner le service? Le nouveau chef affirme qu'avant d'ouvrir un centre d'injection supervisé, on devrait davantage mettre l'accent comme société sur la prévention dans les écoles et lutter contre la consommation de drogue, notamment les méthamphétamines, qui font des ravages chez certains jeunes. M. Desgagnés rappelle que cette drogue vendue sous forme de comprimés est facilement accessible pour les élèves du secondaire en raison de son faible coût. Il ne faut pas oublier que dans nos écoles, c'est l'avenir qui est là. Ce n'est pas tout, mesdames et messieurs. Le 4 février 2015, la presse canadienne dévoilait que 3 ans plus tard, l'idée revenait à la charge. Et comme vous avez pu le constater avec l'article de Claude Brunet cette semaine, on en parle encore. Maintenant, ce n'est pas seulement le chef de police Michel Desgagnés qui a réagi face à l'implantation de centres d'injection supervisée, les CIS. L'Institut national de santé publique du Québec a réagi également. Selon eux, l'implantation des services d'injection supervisée dans d'autres pays ne s'est pas toujours fait sans susciter certaines appréhensions chez divers corps professionnels, groupes de marchands, résidents et travailleurs des secteurs immédiats et même chez certaines personnes faisant usage de drogue par injection qui craignent que ces mesures deviennent des outils de contrôle accrus sur elles. Néanmoins, selon le INSPQ, les recherches sur les services d'injection supervisée portent sur 5 objectifs, soit rejoindre les populations vulnérables, réduire la mortalité par surdose, réduire les risques de santé, réduire les nuisances dans les lieux publics et stabiliser l'état de santé des personnes UDI. Les analyses coût-efficacité et coût-bénéfice réalisées à Vancouver et Sydney montrent des avantages à l'implantation de tels services. Même en utilisant des modèles conservateurs, les analyses laissent voir des gains financiers à l'implantation de ces services puisqu'ils réduisent le fardeau financier de la maladie et les pressions sur les systèmes de soins, plus particulièrement sur les urgences qui sont la porte d'entrée pour les surdoses, les troubles psychiques et des infections sévères liées à l'usage de drogue. De plus, aucun effet négatif sur la santé n'a été documenté dans les recherches scientifiques menées à ce jour. Pour le Québec, les gains financiers associés à cette mesure seraient d'autant plus importants que les SIS permettent de canaliser des clientèles qui consultent souvent à répétition dans les urgences. Ces services ont aussi la capacité d'améliorer l'accessibilité, la continuité et la qualité des services aux clientèles vulnérables en mobilisant peu de ressources du réseau de la santé et en comptant sur la collaboration des organismes communautaires en prévention auprès des usagers de drogue par injection. Ce sont de véritables unités de prise en charge pour les personnes UDI difficilement rejointes par les services du réseau de la santé. Pour être pleinement fonctionnels, ces centres de prévention comptent sur un partenariat solide et souple avec des établissements du réseau de la santé. Sur ce, mesdames et messieurs, l'instauration des centres d'injection supervisés met en lumière des choix de valeur. D'un côté, ceux qui sont favorables mettent en valeur les réductions des coûts reliés à la santé, la compassion et les conditions de vie de ces personnes vulnérables. En revanche, on transige avec des gens qui consomment des substances illégales au profit du crime organisé. C'est pourquoi, selon l'Organe international de contrôle des stupéfiants, l'instauration de CIS va à l'encontre des dispositions fondamentales des traités internationaux pour le contrôle des stupéfiants. D'un autre côté, on décrit le fait que ça expose les jeunes à cette réalité qui peut amener une banalisation de la problématique. D'autre part, on invoque que s'il y a des ressources à investir, c'est dans la prévention auprès des jeunes pour qu'un moins grand nombre d'adolescents succombent à vivre l'enfer de la dépendance de drogue par intraveineuse. Une chose est certaine, c'est que l'immobilisme n'a jamais réglé aucun problème, mesdames et messieurs. Sur ce, chers auditeurs, puisque c'est déjà le temps de clore cette émission, je vous invite à ouvrir la discussion en m'écrivant à l'adresse suivante, leblogueur@commercialericlantier.net. c'est le blogueur à commercial ericlantier.net. Si vous désirez soutenir la mission de la station, vous n'avez qu'à vous rendre à radiovinouvellefm.com, c'est radiovinouvellefm.com, et procéder à un don via l'application PayPal située dans le bas de l'écran. Notre objectif est de 25 000 $. Merci de nous aider à diffuser pour la vie. Je vous invite également à être des nôtres du lundi au vendredi à 8h05 ou à 20h05 pour parcourir votre tour d'horizon. En terminant, n'oubliez pas que cette émission est disponible en tout temps sur le www.ericlantier.net. C'est le www.ericlantier.net. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir syntonisé le 92,7 FM ou radiovinouvellefm.com. Je vous dis donc à demain.
Merci d'avoir pris part à ce tour d'horizon. Le Tour d'Horizon existe grâce à la générosité de ses supporters et de ses commanditaires. Si vous désirez poursuivre la discussion, écrivez-moi à l'adresse suivante. Le blogueur, à commercial, ericlantier.net. Le Tour d'Horizon est accessible également au www.ericlantier.net. D'ici là, je vous invite à vous préparer pour un autre Tour d'Horizon. Au revoir!